France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, si je vous cite quelques-uns des titres les plus fameux du répertoire, comme le Don Giovanni de Mozart, la Symphonie fantastique de Berlioz ou le Sacre du printemps de Stravinsky, il n'est pas certain que vous les associez spontanément avec la Bibliothèque nationale de France. C'est pourtant bien à Paris que sont soigneusement rangés les manuscrits autographes de ces chefs-d'œuvre. Mathias Auclair, mon invité, propose de nous les faire découvrir dans une superbe anthologie rehaussée de nombreux facsimilés. Et comme nous approchons Noël, Mathias Auclair est venu avec un second beau livre, sobrement intitulé « L'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, mais magnifiquement illustré ». Trésor de la musique classique, partition au manuscrit, aux éditions textuelles et BNF Éditions, et l'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, chez Gourcuff Gradenigo. L'orchestre de l'âge des Lumières, dirigé par Gustav Leonhardt, c'était un extrait des Paladins de Jean-Philippe Rameau. Bonjour Mathias Auclair.
Bonjour.
Nous évoquons donc un des deux livres avec lesquels vous êtes venu, donc ces trésors de la musique classique, ces partitions manuscrites des 17e au 21e siècle, où il y a, je l'ai dit en introduction, des facsimilés, mais pas que, chacune de ces partitions est mise dans le contexte. Ça commence avec le Te Deum de Charpentier, on va jusqu'à Timbre, Espace, Mouvement de Dutilleux et puis également Boulez. Une sélection de 34, je crois, enfin une trentaine de manuscrits. C'est un ouvrage collectif, hein, vous êtes une quinzaine de collaborateurs à avoir travaillé sous votre direction pour présenter donc ces trésors de la Bibliothèque nationale de France. Alors, où sont physiquement consignés tous ces autographes musicaux?
Donc l'idée, c'était finalement de faire pour les autographes musicaux ce qui a été fait de manière régulière et très bien pour les autographes littéraires.
C'est ça, oui.
Et ce qui m'avait frappé au moment où nous avons formé ce projet, c'est que finalement un tel livre n'existait pas. C'est-à-dire un livre qui rende compte de la richesse des collections musicales de la nation, puisque c'est bien cela que constituent les collections musicales de la Bibliothèque nationale de France.
Et vous êtes bien placé pour connaître tout ça, parce que vous êtes le directeur du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France.
Voilà, c'est vrai que Escalité, j'avais finalement cette mission de boucher ce trou bibliographique et aussi de montrer la richesse de ces collections. Et alors, je dois dire que l'idée n'était pas forcément de limiter la sélection aux collections de mon département, puisque il y a de la musique à la Bibliothèque nationale à l'extérieur du département de la musique. Il se trouve que finalement, nous avons choisi de nous limiter aux collections du département de la musique, mais sur ces deux sites, à savoir le site Richelieu, exactement le site Louvois, et puis le site de la Bibliothèque Musée de l'Opéra, parce que ce sont en fait deux collections qui se répondent. Mmh. Et d'ailleurs, comme ça, si on prenait le livre et on essayait de faire un petit jeu de devinette, on ne saurait pas forcément où est chaque manuscrit.
D'accord.
Voilà. Donc c'était une façon de montrer la complémentarité de ces collections de la Bibliothèque nationale. C'était aussi une manière de traverser plusieurs siècles d'histoire musicale avec un certain nombre de manuscrits très importants et d'œuvres majeures du répertoire, et de montrer aussi que les collections de la nation française ne se limitent pas aux manuscrits des grands compositeurs français. Bien sûr, ils sont là, mais il y en a bien d'autres, et c'est vrai qu'on peut être surpris que le manuscrit de la symphonie alpestre soit dans les collections de la Bibliothèque nationale, ou que le manuscrit de la sonate arpeggione de Schubert soit, ou la passionnate Beethoven. Voilà. Il y a comme ça un certain nombre d'immenses œuvres du répertoire dont les manuscrits, parfois les seuls connus, sont dans les collections françaises.
Alors justement, le grand public ne connaît pas forcément comment de tels documents peuvent arriver dans la bibliothèque. C'est le fait du bibliothécaire, de collectionneur, de vente. Comment est-ce que ça se passe? Qu'on connaît pas très bien finalement comment circulent tous ces manuscrits autographes, Mathias Auclair.
Alors c'était l'objet de mon introduction, c'est-à-dire que justement, avant des notices qui allaient finalement étudier des cas, qui sont tous extrêmement originaux, et chaque manuscrit raconte une histoire par la manière dont il est rentré dans les collections nationales, j'ai essayé d'écrire cette histoire du marché des manuscrits et aussi, d'une certaine façon, comment la France est devenue musicienne, comment la France a pris goût, après finalement bien d'autres nations, après bien sûr les nations germaniques, les Allemands, les Autrichiens, mais aussi les Américains, comment finalement la Bibliothèque nationale de France est devenue une immense collection musicale. Je dirais presque malgré elle, en tout cas pendant tout un temps de son histoire, elle a finalement été un peu attentiste sur le marché avant d'y prendre part. Et donc, ce que l'on observe, c'est que la Bibliothèque nationale se met à acquérir des manuscrits musicaux relativement tôt dans le premier quart du XVIIIe siècle, mais finalement, c'est quelques petits coups comme ça, les manuscrits de Charpentier, la collection de Brossard, mais qu'il n'y a pas de véritable politique suivie, et que finalement, ceux qui sont les plus actifs en France, ce sont des collectionneurs privés qui, au moment où le marché se développe dans la deuxième moitié du 19e siècle, font jeu égal, ou presque égal, avec de grandes institutions étrangères, la bibliothèque de Berlin, la bibliothèque du Congrès. Et finalement, l'État français se met véritablement à s'intéresser à la musique à partir des années 30.
Thank you.
La nuit, la fin de la symphonie alpestre de Richard Strauss, la Staatskapelle de Dresde dirigée par Rudolf Kempe. Mathias Auclair, vous avez évoqué tout à l'heure cette symphonie alpestre de Strauss, donc qui figure parmi les manuscrits conservés par la Bibliothèque nationale de France. Le statut même, d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre introduction, du manuscrit musical a évolué à travers le temps, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un outil, un document de travail, qui souvent a disparu dès lors que la musique était imprimée, ce qui nous fait regretter de ne pas avoir le moindre manuscrit de Lully, alors qu'on en a des centaines de charpentiers. Et puis, par la suite, vous avez évoqué tout à l'heure un marché, c'est devenu un objet de collection.
Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est assez captivant dans cette histoire, c'est la manière dont l'objet, qui est finalement toujours le même, c'est-à-dire un document écrit par un compositeur, n'est pas grand-chose. Même pour le compositeur lui-même, qui n'y attache aucune importance, et qui dit même que pour lui, ce qui est important, c'est d'être publié.
Ouais.
Pour que progressivement, parce que le statut de l'artiste s'affirme, et évidemment, c'est très, très intéressant de le mettre en rapport avec la manière dont le compositeur comme artiste s'affirme, et c'est pas un hasard si le manuscrit autographe prend une dimension tout à fait particulière avec l'époque romantique, comment ce manuscrit devient d'abord un objet très important pour le compositeur lui-même, pour les compositeurs qui commencent à les conserver par devers eux et à en prendre soin et à veiller à leur transmission. C'est le cas de Handel, par exemple. Et comment ces manuscrits deviennent, pour certains, de véritables reliques, des objets de culte avec tout un cérémonial qui accompagne l'enchâssement, la présentation, le transfert de ces manuscrits. Mmh. Alors évidemment, le cas le plus symptomatique, le plus emblématique et le plus célèbre, c'est le cas du Don Giovanni de Mozart.
De Pauline Viardot.
Acquis par Pauline Viardot en 1855, au moment où les manuscrits de Mozart sont dispersés de par le monde. Et Pauline Viardot aurait vendu ses bijoux pour acheter ce manuscrit. C'est évidemment tout ça est magnifique. C'est un véritable roman vrai.
Oui.
Et donc Pauline Viardot l'achète à Londres et le fait immédiatement enchâsser dans une boîte qui a des apparences de reliquaire. Elle le met dans une petite pièce comme une chapelle de son salon parisien et on a toute une série de relations de compositeurs qui sont venus se prosterner, admirer, pleurer, embrasser ce manuscrit, comme s'il s'agissait d'une partie du corps.
Oui, les reliques d'un saint, voilà. Quelque chose comme ça. Ouais,
et donc quand Pauline Viardot part à Baden-Baden, puis à Londres, il y a le transfert de la relique. Donc le manuscrit suit Pauline Viardot pour ensuite revenir en France après 1870 et prendre une dimension nationale. Parce que ça aussi, c'est très important, c'est de voir combien ces manuscrits musicaux font corps avec la nation. Alors les nations germaniques en prennent conscience dès le tout début du 19e siècle. Et il y a une volonté, par exemple, de l'État prussien de collecter ces manuscrits, à la fois parce que la musicologie de source est naissante en Allemagne, mais aussi parce que l'État prussien sent bien que les grands compositeurs allemands sont importants pour l'unité du pays. Bon, bah, cette dimension nationale, elle arrive aussi en France après 70 et après évidemment les conflits avec l'Allemagne, et Pauline Viardot fait de ce manuscrit qui n'est pas français un trésor national, quelque chose qui condense l'identité nationale. Et d'ailleurs, quand elle le donne finalement à la bibliothèque du conservatoire, elle assortit ce don de toute une série de clauses qui font que ce manuscrit est attaché à la nation. Et ça, c'est quand même tout à fait intéressant et symptomatique de la dimension qu'ont ces manuscrits, qui, quand on les expose, ne fascinent pas forcément du premier coup, mais quand on commence à expliquer ce qu'ils sont, sont prodigieusement fascinants, intéressants, et c'est ce qui fait que on aime faire le métier qui est le nôtre et que nos lecteurs viennent dans nos salles de lecture, c'est que il y a quand même un rapport avec ces objets qui est tout à fait singulier. Triompher la vertu.
De ta flamme, tu t'asserrais, tu ouvres ses bras. Pour une beauté, quelque charme, on peut retrouver mille attraits. Mais l'honneur qu'on perd dans les larmes, on ne le retrouve jamais.
Cyril Dubois et Jean-Sébastien Boulle, les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. C'était un extrait de Tarare d'Antonio Salieri. Mathias Auclair, nous changeons de livre, hein, parce que j'ai dit vous êtes venu avec deux très beaux livres, cadeaux tout indiqués pour les fêtes de fin d'année. Donc là, c'est l'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire, qui vient de paraître chez Gourcuff Gradenigo. Parcours thématique et chronologique à la fois. Comment est-ce que vous avez voulu organiser cette histoire de l'Opéra de Paris, Mathias Auclair?
Alors le constat que nous avons fait avec mon éditeur, c'est qu'il y avait énormément de livres sur l'histoire de l'Opéra de Paris. D'ailleurs, il y a une
énorme... Et cette année, beaucoup, j'en ai présenté plusieurs.
Voilà, une grosse bibliographie à la fin de mon livre. Oui. Mais qu'il n'y avait pas un livre qui présente de manière suivie l'histoire de l'opéra depuis l'arrivée du genre, finalement, sur le sol français, puisque le genre est quand même italien, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était ça que nous voulions faire. L'idée, c'était de faire un livre d'histoire assez classique, finalement, avec une histoire suivie, qui suive quand même grosso modo la chronologie. Et pour ma part, j'avais vraiment la conviction que il fallait faire une histoire totale, enfin une histoire qui aborde les différentes facettes de l'histoire de l'Opéra de Paris, pas simplement les spectacles, ou pas simplement les directeurs, ou pas simplement le ballet. Enfin, parce que on a souvent présenté l'histoire de l'Opéra de Paris comme ça en tranches, et finalement on perd de vue que l'opéra c'est un tout, et que l'Opéra de Paris, qui est l'institution de l'opéra, du genre opéra par excellence, ben, correspond à ce tout. Donc évidemment, il y a des aspects politiques, des aspects sociaux, des aspects musicaux, des aspects picturaux.
Oui, c'est ça. Oui, il y a certains chapitres d'ailleurs que vous intitulez qui font clairement référence. Il y a l'opéra instrument du pouvoir, l'opéra libéral des romantiques. Donc on voit clairement l'éclairage et l'orientation que vous avez voulu donner à ces différents chapitres, Mathias Auclair.
Alors après, c'est vrai que présenter cette histoire d'un point de vue purement factuel n'avait pas de sens non plus, puisque pour faire de l'histoire, il faut quand même éclairer une problématique et quand même montrer des spécificités et essayer de tirer des fils qui rendent cette histoire intéressante pour nous aujourd'hui. Parce que je crois que l'immense intérêt de l'histoire d'une institution comme l'Opéra de Paris, c'est que cette histoire nous dit plein de choses sur l'institution d'aujourd'hui et que cette histoire nous permet de comprendre l'institution d'aujourd'hui et un certain nombre d'enjeux qui nous paraissent immédiatement contemporains, alors que l'on voit en lisant cette histoire que des quantités d'aspects qui nous paraissent immédiatement contemporains sont en fait des thématiques qui traversent toute l'histoire de l'opéra.
Ingouvernable, je crois, dans les années 30, c'est ça?
Oui, alors ingouvernable au moment où l'Opéra de Paris prend une forme qui est sa forme d'aujourd'hui, qui est sa forme d'établissement public, puisque on oublie souvent que l'opéra finalement commence comme un théâtre qui n'est pas subventionné, c'est-à-dire que le modèle que veut le pouvoir royal pour l'opéra, c'est un théâtre qui se suffit à lui-même, et le roi n'a pas envie de subventionner un autre théâtre. Il se trouve que quand l'opéra plaira au roi, le roi donnera un certain nombre de subsides pour ce théâtre, mais en tout cas il se laisse la liberté éventuellement de couper les vivres à l'opéra quand ça ne lui plaît plus. Et finalement, cette histoire administrative, pour le coup, qui est à mon sens aussi passionnante, c'est comment cet opéra a été pendant plus de 200 ans une institution, pas une institution finalement d'État au plein sens du terme, et comment elle est devenue un établissement public en 1939. Et comment les débuts de cet établissement public ont été extrêmement chaotiques, à la fois du point de vue administratif, du point de vue politique, et aussi du point de vue artistique, puisque tout le monde s'accorde pour dire que les 30 premières années de l'Opéra de Paris comme établissement public ne sont pas forcément les meilleures du point de vue artistique, et que par ailleurs, il se passe plein de choses pas forcément terribles du point de vue même administratif ou politique. Il n'empêche que ce sont, malgré tout, des périodes fascinantes. C'est-à-dire, c'est le moment du plafond de Chagall, c'est le moment de l'arrivée des couturiers avec Yves Saint-Laurent. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans cette période chaotique et où le théâtre lui-même est difficilement gouvernable.
Куда идешь?
Кого так рано брить собрался?
Un extrait du nez de Chostakovitch dans la version de l'orchestre du théâtre Mariinsky dirigé par Valéry Gergiev. Mathias Auclair, le nez fait partie de ces opéras qui sont arrivés assez tardivement au répertoire, à l'affiche de l'Opéra de Paris. Vos derniers chapitres évidemment parlent de la situation actuelle, de l'ouverture vers la mondialisation. Comment est-ce qu'une maison comme l'Opéra de Paris peut-elle évoluer? On sait que là, récemment, un nouveau directeur a été nommé. Quels sont les enjeux pour l'avenir pour une maison comme l'Opéra de Paris au terme de 350 ans d'histoire?
Alors, ce que je montre dans mon livre, c'est que finalement, le modèle de fonctionnement actuel a été fondé par Rolf Liebermann en 1973 et d'une certaine façon refondé en 1994 avec la création de l'Opéra National de Paris et avec le rapport de Gall. Donc c'est finalement sur ces fondamentaux que repose aujourd'hui la direction de l'Opéra de Paris, qui finalement ressemble à celle des autres grands théâtres internationaux. D'ailleurs, les directeurs dirigent successivement ces différents théâtres et impriment à chaque fois leur marque. avec une capacité d'action finalement limitée, parce que ils sont obligés de donner un certain nombre de grands chefs-d'œuvre pour faire venir les gens dans les salles. Il n'y a finalement pas un choix si gigantesque que cela en termes de chanteurs qui sont capables de remplir des salles,
ouais, des grandes salles, ouais,
de plus de 2000 personnes, ouais, sur des séries de 10 spectacles. Pas non plus tant que cela de metteurs en scène importants qui sont capables de prendre en charge des ouvrages tout de même difficiles à mettre en scène, parce que longs, parfois d'un autre temps. Et comment faire que Les Indes Galantes ou Così fan tutte soient toujours actuelles, enfin, ouais. C'est finalement cette question que se posent les metteurs en scène aujourd'hui.
Est-ce que vous me dites, alors Mathias Auclas, c'est que du coup, il n'y a peut-être pas beaucoup de place pour l'audace, si ?
Si. Alors, il y a de la place pour l'audace. Et d'ailleurs, je pense que quand on examine les mandats de chaque directeur, on voit que chacun a mis sa part d'audace dans la direction. Et c'est ce qui fait que les directions ne se ressemblent pas à tel point qu'on peut adorer tel période directoriale et détester telle autre.
Et
il n'est pas difficile de trouver des témoins de cela. Donc c'est que malgré tout, le directeur de l'opéra a quand même capacité, malgré ce cadre économique assez contraint, à imprimer sa marque. Alors la spécificité de l'opéra, c'est aussi sa dimension politique, le fait que, alors c'est ce par quoi je conclue mon livre, le fait que l'opéra est en lien très, très intime avec la nation. Et c'est sans doute, si l'on veut, au bout du bout, le défi de l'opéra, c'est comment l'opéra de Paris peut garder ce lien avec la nation, parce que il y a une sorte de pacte avec la nation depuis sa création par Louis XIV, et c'est ça qui en fait guide les directeurs de l'opéra successifs, c'est comment maintenir un lien organique entre une institution qui a 350 ans, un genre qui en a encore un petit peu plus et qui peut paraître comme un peu hors du temps,
un peu daté, ouais.
Et en même temps, ce lien très fort avec la nation et ce fait que nous avons besoin d'opéra et que nous savons tous que quand nous assistons à une grande représentation d'opéra, nous vivons un moment inoubliable dont on parle plusieurs années après et en même temps qui a totalement disparu.
Très bien, merci beaucoup Mathias Auclair. Je rappelle le titre des deux ouvrages que vous êtes venu présenter, Trésor de la musique classique, Partition manuscrite des 17e ou 21e siècles, et puis l'Opéra de Paris, 350 ans d'histoire. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Christine Amado, à la technique Marie Le Peintre, attachée de production Annick Aumier. Tous les renseignements relatifs à la programmation musicale de cette émission sur notre site francemusique.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.